que van volando, que en el pico llevan flores, llévale este papelito para el dueño de mi amor, llévale este papelito para el dueño de mi amor.
A mi perengoño,
a mi perengoño,
a mi perengoño,
mi perengoñito,
a mi perengoño,
a mi perengoño,
a mi perengoño,
mi perengoñito,
a mi perengoño,
a mi perengoño,
a mi perengoño,
mi perengoñito,
a mi perengoño,
a mi perengoño,
a mi perengoño.
C'est le groupe Aïn et j'ai Rebecca, qui est chanteuse du groupe, en direct dans l'émission Patchworld. Merci Rebecca d'être dans l'émission aujourd'hui avec nous en ce début d'année 2019.
Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui.
Alors tu rentres de voyage, fais-nous rêver un peu.
Oui, alors j'ai passé les fêtes aux îles Canaries chez ma mère, mais là je rentre en plein forme pour cette sortie d'album qui approche.
Alors là, vous l'entendez, donc c'est en avant-première, l'album n'est pas encore sorti.
Tout à fait.
Alors pour ceux qui voudraient découvrir ce groupe Aïn, vous pouvez taper Aïn, donc c'est 2 A apostrophe IN. Tu peux m'expliquer s'il te plaît
ce que ça veut dire? Alors Aïn, ça veut dire âme en langue Wayuu, qui est la tribu qui se trouve à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. On a choisi ce nom et cette langue aussi parce que Felipe et Sergio sont colombiens. Moi, je suis vénézuélienne. On aborde les différents rythmes des deux pays. Donc, trouver ce point de connexion entre les deux pays, les deux répertoires, c'est une langue commune. Une manière de dire qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de frontières parce qu'on est connectés par ce lien.
Donc vous trouvez toutes les informations du groupe sur les actualités et le prochain concert donc au Nidpool bientôt en direct. Vous serez tous les trois sur scène ?
On sera tous les trois, mais on aura plein d'invités.
Des surprises, des invités surprises et une première partie ?
Tout à fait, la première partie c'est un duo qui s'appelle Duo Maravilla, ce sont des chansons mexicaines. Et on aura aussi des surprises à la fin de soirée avec un petit showcase tambour, musique de trance. Et des invités qui viennent jouer avec nous pendant le concert aussi.
Sur ce premier titre de cet album, Ma Buenaventura, je l'ai bien prononcé, vas-y.
Mi Buenaventura.
Mi Buenaventura.
Si. Oh,
ça viendra. Mi Perengoño.
Mi Perengoño.
Mi Perengoño.
Ah, super.
Alors, tu peux me traduire, s'il te plaît.
Alors, Mi Buenaventura est une ville portuaire qui se trouve en Colombie. Ça, c'est un morceau colombien, un rythme qui s'appelle Currulao. Et Mi Perengoño, c'est un monsieur qu'on appelait comme ça. Donc, c'est l'ensemble de deux morceaux. Et ça se joue souvent ensemble, les deux collés. Et en fait, ce qu'on a fait pour cet album, c'est qu'on a pris des morceaux traditionnels et on les a arrangés de manière complètement différente, en adaptant, ajoutant des choses flamenco, du jazz, du tango, selon les influences de chacun. C'est pour ça que des gens qui connaissent ce répertoire vont découvrir quand même une autre manière de le jouer. Et ça parle justement d'une ville qui s'appelle Mi Buenaventura, donc ça parle du port, ça parle de la mer, c'est pour ça aussi qu'au début on entend un peu le tambour océan, des petites mouettes, etc. Et après on passe à la partie plus rythmée avec la percussion qui parle de ce monsieur, Mi Perengoño, c'est mon amoureux.
Et là, donc, il y avait deux voix, donc c'était la voix de Margot.
Oui, tout à fait, donc pour ce morceau, on a deux invités. Donc Margot, qui est française, une chanteuse française, mais qui chante très très bien en espagnol. Et Thomas Morin, qui joue le violon et aussi les chœurs. Donc deux Français qui font les chœurs, on ne dirait pas, mais c'est très bien.
Est-ce que cet album, tu l'as enregistré en France? C'était quel studio vous êtes allé?
Alors on l'a enregistré à Saint-Étienne, dans les locaux du conservatoire, avec un ingénieur de son qui s'appelle Olivier Biffaut. Et on a masterisé ça à Paris, avec Philippe Labroux. Mais il y a des morceaux, il y a un morceau où deux invités qui habitent à l'étranger, donc Jorge Glem, qui habite à New York, et Manuel Rangel, qui habite à Caracas, ont enregistré à distance, et après on a rassemblé tout ça.
Ah, la magie de l'ordinateur et d'Internet permet de...
Tout à fait, c'est ça.
De jouer avec des musiciens qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, c'est incroyable quand même.
Ouais, c'est super. Super. En plus, on est super contents d'avoir pu faire ça avec eux.
Donc, tu leur envoies vos enregistrements et ils rajoutent leur partie par-dessus, c'est ça?
Oui. Bah, je leur ai envoyé le morceau de base, ma sorte de maquette, le tempo, la partition, tout. Et après, ils ont fait par-dessus. Et après, nous, on mixe ça, on masterise ça.
Incroyable. C'est vraiment une façon... Combien de temps ça vous a pris pour faire tout cet album?
Alors, on a fait 3 jours d'enregistrement en août, plus le temps d'attendre les invités, masteriser. Disons qu'on a plus après le temps d'aller au pressage. Ça prend bien 4-5 mois, mais ce n'est pas beaucoup en vrai.
Oui, parce qu'il y a le temps d'avance et par exemple, comment vous choisissez vos morceaux traditionnels? Est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord tout de suite entre musiciens ou c'est toi qui proposes et y a quelqu'un qui décide du choix? Vous le faites en commun, ce choix sur les morceaux traditionnels?
Alors, dans le répertoire, on apporte tous des morceaux qui nous plaisent et après, on fait aussi ensemble le travail d'arrangement. Et entre les morceaux qu'on avait déjà dans notre set, on a choisi de faire 3 vénézuéliens et 3 colombiens, pour que ce soit équitable, et un rythme différent pour chaque morceau. Donc, comme ça, on peut vraiment proposer une palette large de chaque pays, un échantillon de rythmes différents. Donc il y a une cumbia, un curulao et un mapalé pour la Colombie, et un joropo, una danza et un tambour afro-vénézuélien pour le Venezuela.
Alors le deuxième morceau de cet album, Caramba, qu'est-ce que c'est comme danse alors?
Alors Caramba, c'est vraiment une expression qu'on dit zut. Et ce morceau est vraiment, bon, ah zut, ça n'a pas marché, cette histoire d'amour, ça aurait pu être tellement beau, mais hélas, ça n'a pas marché.
C'est toujours une danse de Colombie, c'est ça?
Alors c'est une danse vénézuélienne, c'est un genre vénézuélien.
Et donc c'est le nom de ce genre ou de cette danse?
Non,
y a plusieurs inspirations.
Oui, non, le nom c'est danse, c'est vraiment le genre. Et puis Caramba, c'est le nom du morceau. Et le compositeur s'appelle Otilio Galíndez.
Caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido si tanto como te quise, así me hubieras querido. Caramba, mi amor, caramba, pasar este invierno triste mirando caer la lluvia que tantas cosas me dice. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Caramba, mi amor, caramba, todo lo que nos perdimos, los chismes que solo escucho entre las piedras del río. Caramba, mi amor, caramba, el viento. Caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba. Thank you.
caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba, caramba, mi amor, caramba.
C'est une tierce picarde. Et il y a une belle présence dans la voix. Tu te souviens des micros sur lesquels, avec lesquels tu enregistrais la voix?
Ah, c'est des Neumann, mais je me rappelle pas le modèle.
C'est ceux du conservatoire à Saint-Étienne?
Non, c'est le on avait les locaux, mais tout le matériel appartient à l'ingé son.
À Olivier.
Olivier.
Ah bah, y a du bon matos, il y a une belle présence. Après, je pense qu'il y a aussi le travail de mastering, mais là, j'aime beaucoup ce son-là.
Ah oui, c'est un très bon micro. Ouais.
Et puis, il y a la voix, forcément. Hein, ça, je pense que les auditeurs s'en sont rendus compte. Alors, il y a autre chose, je passe un peu sur un autre sujet. Bon, on va diversifier. J'aime beaucoup la pochette. On peut parler du dessinateur un petit peu.
Tout
et puis,
à fait.
Il y a l'image déjà sur Internet, si on tape oui. sur ton site ou Facebook.
Oui, sur le Facebook, sur le site Internet, de partout, vous pouvez voir cette belle pochette rose.
Rose et bleu sur bleu. Les visages, bleu ciel, les visages, bleu oui. clair. Et donc, c'est un visage à trois visages.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une sorte de totem ou une créature combinée des trois visages de Sergio, de Felipe et de moi-même. Avec des cornes des Diablos de Yare qui appartiennent à une fête typique vénézuélienne. Et on a dans le cœur de la créature, on a la Mascara Putumayo colombienne. Donc on mélange bien tous les éléments des deux pays. Et cette pochette a été faite par un très bon ami et peintre qui s'appelle Flores Solano. J'ai déjà travaillé avec lui pour la pochette de Trop by Ritz. C'est lui aussi qui avait fait la partie artistique, visuelle. Et donc il habite à Buenos Aires, en Argentine, mais il est vénézuélien. Et il comprend toujours ce que je pense. Je ne sais pas comment il fait. Mais...
Donc tu lui donnes une idée et il part de cette idée.
Oui, je lui avais dit à peu près que je voulais, qu'on voulait mélanger les trois visages, un truc un peu psychédélique, avec certaines couleurs. Et il m'a montré ça. Ben, je n'ai pas dû.
Flores, son prénom.
Alors, il s'appelle Alberto, mais son nom d'artiste, c'est Flores Solano.
Flores, ça veut dire fleur ?
Fleur.
Au pluriel ?
Tout à fait.
Donc, il a un nom plus féminin ou c'est neutre, Flores ?
Non, c'est ça. Je pense qu'en fait, Flores, c'est son premier nom de famille et Solano, le deuxième nom. Donc, il a effacé son prénom.
D'accord. C'est un nom de famille, Flores.
Oui, Flores, c'est un nom de famille.
C'est très beau. Donc, il a un site, on peut regarder ce qu'il fait.
Il a un Facebook, il a un Instagram, il est un peu de partout.
Ah, je serais curieuse d'aller voir.
Oui. Il se dédie beaucoup aux portraits féminins. Donc il fait beaucoup de portraits et corps féminins, des nus, tout autour de la femme. Donc c'est assez intéressant.
Oh, c'est super. Alors, on fait une petite respiration musicale. On continue parce qu'on a du temps. Oui. Je vous propose de découvrir le troisième morceau. On les fait dans l'ordre pour l'instant. El Pescador. C'est quoi El Pescador?
El Pescador, c'est le pêcheur. Donc c'est une cumbia colombiana. Qui parle des pêcheurs.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bareque para llegar a la playa.
playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, son los mantarrayas. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna.
Vous vous lâchez sur les accords de fin.
Ça c'est Felipe.
Les influences un peu jazzy.
Oui, jazz et tango, Felipe, c'est ça.
Oui, tous les musiciens qui t'accompagnent ont tous des groupes en parallèle.
Oui. Alors, Felipe, il travaille beaucoup avec un collectif qui s'appelle Rouleau de Tango. Et il travaille pas mal avec Tango de Soie à Lyon. Il est vraiment dans le tango, mais il est aussi beaucoup dans le métal. Donc, il a des influences très, 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 très larges. Sergio, c'est plus guitare classique, donc ça apporte aussi un autre côté au groupe. Margot, qui est invitée, elle joue dans plein de choses. Elle fait tellement de choses. Elle est dans le Tikaniki, elle chante au Pixvae, elle a un bon autre problème qui s'appelle Pambele. Donc, elle fait beaucoup de musique colombienne, latino-américaine, mais pas que. Et Thomas Morin qui joue le violon et fait des chœurs, il a un groupe qui s'appelle Le Fil d'Ariane et un autre qui s'appelle Ariane Gypsy Bastard. Donc c'est plutôt musique des Balkans, musique gitane, zigane. Ça aussi, ça apporte autre chose.
Donc bienvenue dans Patchworld, on peut pas faire plus
c'est
large.
Ça. On va te mélanger plein de choses.
Ouvert en musique du monde. Et dans le morceau qu'on vient d'entendre, on entendait les voix aussi de Thomas et Margot.
Tout à fait.
Accompagnés.
Ouais.
Pour en revenir au texte, ici, dans cet album, tu chantes tout en espagnol ?
Oui.
Dans Trobeiritz, tu as une particularité ? Tu as d'autres langues ?
Oui. C'est généralement
et d'espagnol, c'est ça ?
C'était l'espagnol juif médiéval, donc le ladino. Et après, Il y a quelques morceaux qui étaient grecs, turcs et arabes, mais pour le disque, on a appelé des gens natifs de ces pays-là pour que ça soit vraiment. On mette vraiment en valeur le mélange entre les différentes cultures. Mais en concert, quand on ne peut pas tout le temps voir les personnes, bah, du coup, je chante dans les quatre langues.
Eh bien, et en plus, tu as fait fini dans ton mémoire, c'était aussi sur de l'espagnol, ce texte ancien. Tu peux raconter en deux petites minutes, c'est curieux.
Oui, alors ce mémoire était sur la musique galicienne, qui c'est comme l'équivalent de la Bretagne en Espagne, c'est le Finistère atlantique. Et ça parle de chant femme du XIIIe siècle, qui était écrit dans cette langue qui s'appelle le galaïco-portugais. C'est le mélange entre le galicien et le portugais.
Et, le galicien, c'est comment ? C'est plus proche de la langue espagnole ? Ça ressemble à quoi ? Même l'alphabet ?
C'est vraiment un mélange entre l'espagnol et le portugais, je dirais. Parce que c'est à la frontière entre les deux. Et, c'est ça, mais au XIIIe siècle. Donc, un mélange d'espagnol et portugais médiéval.
Donc c'est encore très proche peut-être du latin, non ? Je ne sais pas, c'est plus celte-latin.
Oui, on peut comprendre, ça, quand on parle espagnol, on peut comprendre une bonne partie. Portugais
du
aussi.
Du coup, c'était écrit à la main, c'était avant l'imprimerie ?
Oui, alors...
À l'encre,
c'est un manuscrit, tout à fait.
À la plume, c'était écrit à la plume ?
Oui, avec de l'encre et puis une notation médiévale, c'est une notation carrée avant l'arrivée du pentagramme.
Donc ils ont retrouvé, tu me disais, ce manuscrit au hasard dans un...
C'est un petit manuscrit, donc ça fait que deux pages. Ils l'ont retrouvé dans un autre bouquin en 1914, mais il date du XIIIe siècle environ, parce qu'on n'a pas les dates précises. Et donc c'était une grande découverte pour ce répertoire-là, qui est assez méconnu parce qu'il n'y a pas de source. Surtout pour la musique profane, on a très peu de musique écrite. C'est pour la musique sacrée. Donc là, on retrouve cette chanson d'amour, mais écrite. C'est assez intéressant.
Et il y avait, comment on sait que c'est une chanson et pas un poème ? Il y avait une sorte de partition avec ?
Il y a la notation gothique qu'on appelle, tu sais, comme pour la monodie.
Avec des accents au-dessus des lettres, des neumes ?
Oui, exactement. C'est pas exactement des neumes, mais tout à fait, on a les carrés avec des notes et les paroles en bas, donc c'est quand même bien,
ça joue bien de la musique. Il y a une sorte de portée, je crois qu'il y avait quatre lignes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et donc ça se traduit un peu comme une clé d'ut, non ? Pour
rechoper on peut le prendre de différentes manières. En fait, la hauteur,
c'est relatif.
On fait comme on veut. Le chanteur choisit où on veut chanter. Il a juste les intervalles, si tu veux.
Et du coup, rythmiquement, c'est aussi un peu improvisé. Les ornementations n'étaient pas indiquées.
Ça, c'est toute une question, ouais, parce que le rythme, le tactus, ce qu'on connaît maintenant. Comme le tactus, ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y a plusieurs interprétations, des gens qui décident de chanter ça d'une manière assez rythmée, d'autres qui disent, non, on va le laisser vraiment à l'improvisation, assez libre, parce qu'on n'a pas d'indication. On peut proposer ce qu'on veut, entre guillemets, plein d'hypothèses, parce qu'on n'a pas la vraie réponse.
Oui, à la limite, c'est même jusqu'à l'époque baroque, finalement, il y a beaucoup d'ornementations qui n'étaient pas indiqué et qui était à la liberté du chanteur et même d'improvisation au-delà de la partition.
Oui, et ça n'existait pas en fait, cette chose, cette notion d'avoir un tempo stable. Ça n'existait pas. On ne sait pas trop comment c'était parce qu'on n'a pas de CD de cette époque-là, mais ce qui est sûr, c'est que cette chose de 3-4, 4-4, ça n'existait pas.
Lully n'était pas passé par là pour taper
le
bâton. Si les auditeurs ne connaissent pas cette anecdote, tu la connais, Rebecca, il disait que c'était le chef d'orchestre qui s'énervait, il tapait avec un grand bâton, genre les bâtons pour, comme au théâtre, tu sais, pour...
Ah oui.
Où il donne les coups pour... Et donc il s'est tapé fort et il serait mort parce qu'il s'est tapé sur le pied en voulant marteler comme un métronome et ça a fait une hémorragie. C'était dangereux de faire le métronome à l'époque.
Vamos, dale! Eso! Eso, sí! Vamos, vamos, vamos! Dale! dale.
Mi mamá me dio un manduco. Mi mamá me dio un manduco. Ni manduquito para
donc en direct sur les ondes de Radio Canu avec notre invitée du jour, Rebecca, pour ceux qui prennent l'émission cours de route. C'est le groupe Aïn et on découvre l'album en avant-première pour Patchworld. Merci beaucoup, Rebecca, de nous faire découvrir ce magnifique album qui est très bien enregistré. Je trouve que le son est très bon.
Ah, super.
Vraiment, bravo, félicitations donc à Olivier Biffaut.
Merci, Olivier.
On va lui dire. Belle présence sonore sur le calibre des instruments. Je trouve que c'est très, très, très bien fait. Donc, le morceau qu'on vient d'écouter, là, s'appelait Manduco. Aide-moi, parce que je vais encore écorcher.
Alors, Manduco por Barlovento.
Et c'est ce que je voulais dire.
On a choisi de... Ça, en fait, Manduco, c'est un morceau qui est un chant de travail, en fait. C'est quelqu'un... Voilà, on est à la rivière, on lave les vêtements et on chante pendant qu'on travaille. Et Barlovento, c'est un autre morceau afro-vénézuélien d'une ville qui s'appelle, comme le titre l'indique, Barlovento. Donc on est vraiment dans les tambours, dans la musique de trance. On a décidé de les mélanger ensemble et remplacer les percussions par les claquettes flamenco.
C'est toi qui fais les claquettes ?
Oui. Moi, je fais les claquettes et les percussions, donc les maracas, les castagnettes qu'on entend.
Des chaussures spéciales, un plancher spécial ?
Ah oui, les deux. Donc des chaussures qui sont clouées. Pour que ça fasse vraiment un son fort. Et une planche en bois qui est un petit espace d'air par terre pour que ça résonne bien.
Et sur scène, tu fais les deux. Alors tu chantes et tu fais le... Et
je danse en même temps.
Waouh.
Donc il faut venir.
Voilà, au Neat Pool.
Au Neat Pool.
Vendredi prochain à 20h.
C'est ça.
C'est rue Royale.
17 rue Royale.
Et c'est combien l'entrée ?
Alors c'est 7€ plein tarif et 5€ tarif réduit.
Tout à fait abordable. Donc. Mmh. Alors, on découvre un autre morceau qui s'appelle Prende la Vela.
Prende la Vela, allume le feu ou allume la bougie.
Et grita ben, prende la vela. Cerca del mar, bajo las estrellas.
Candela, prende la vela. El mapa le pide candela. El mapa le pide candela. Gracias al tambor, ritmo y movimiento. Gracias al tambor, ritmo y movimiento. Prende la vela que la cumbiamba pide candela.
Dire sur ce morceau, s'il te plaît, Rebecca.
Alors, ce morceau, c'est un mapalé. Il est connu surtout par Totola Momposina, grande chanteuse colombienne. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce morceau ? On a mis des claquettes pour remplacer les percussions, mais on a fait aussi des percussions avec les instruments. Donc, quand il y a le solo de claquettes flamenco, il y a aussi Sergio qui fait des percussions avec la caisse de la guitare et Felipe qui fait aussi avec la caisse de la contrebasse. C'est pour ça qu'on a des sons un peu plus graves et plus aigus. On a les chœurs et il y a une grande partie de cris, c'est déclamé, c'est pas forcément des chœurs chantés, des réponses, elle m'a parlé, c'est vraiment quelque chose du style. Et le violon qui est
très
rare.
Présent sur ce morceau, donc Thomas.
Ouais. Donc, c'est assez rare, normalement c'est une trompette, des cuivres, quand on décide de faire une interprétation un peu plus fusion, souvent c'est des cuivres, donc violon, c'est quelque chose de nouveau aussi.
Qu'est-ce qu'il raconte ce texte ? Ça veut dire quoi, prendre la bella ? C'est bien, on apprend des leçons d'espagnol.
Alors, c'est allumer la bougie, c'est vraiment une chanson
faite. C'est la bougie, bella.
Oui, la bella, c'est la bougie. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah, viens, negrita, donc petite noire. Viens danser, allume la bougie avec des mouvements dansants. Ça, c'est vraiment une chanson de fête. C'est pour se défouler, c'est pour danser. Et beaucoup d'onomatopées aussi, donc c'est pas.
Là, tu joues aussi des claquettes. Tu refais des claquettes sur.
Je fais les claquettes. Margot fait le wassa, qui est un instrument colombien. Ça vient de la côte pacifique, mais on sentait que ça pouvait coller bien avec ce morceau. Et il y a le violon, la guitare, la contrebasse.
Quelles sont les percussions originaires, justement, qui sont plutôt, tu m'as dit, comme la Colombie, qui sont bien originaires, plus spécifiquement d'un pays ou d'un autre
vous. Alors, en Colombie, ça dépend vraiment des régions. C'est comme au Venezuela, c'est très distingué. Mmh. Pour les musiques afro-colombiennes, comme dans ce morceau, qui est plutôt du côté atlantique, ça va être des tambours. Tambours. Dans le côté pacifique, ça va être la marimba, il y a aussi des tambours et le guasa. Donc, le curulao de base, c'est la musique du Pacifique, c'est marimba, cununo et guasa. C'est les trois instruments typiques. Après, au Venezuela, beaucoup de tambours dans la partie de Barlovento, par exemple, comme le morceau qu'on vient d'entendre, qui est vraiment la région où il y a plus d'influence africaine, c'est là où ils étaient les esclaves pendant la colonisation. Sinon, en général, c'est les maracas vénézuéliennes. Elles sont différentes aux maracas colombiennes. Donc, ce n'est pas la maraca de cumbia, c'est vraiment un autre type de maracas. Le cuatro, qui est un instrument typique des llanos, de la région de la plaine au Venezuela. On a un peu aussi en Colombie, à la frontière avec le Venezuela. Et de manière étonnante, on utilise beaucoup la harpe aussi pour la musique de la plaine, l'harpe vénézuélienne, donc c'est pas pareil que l'harpe.
Une petite harpe, un peu comme les harpes celtiques qu'on a.
Un peu plus grand quand même, en fait, c'est un peu plus petit que l'harpe classique et ça, elle s'accorde pas de la même manière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas les clés. Et on joue beaucoup de harpe, quatro, maracas dans les ensembles de la plaine. C'est justement dans le genre joropo, c'est ce qu'on va entendre pour finir l'émission. Après.
Eh bien, oui, on peut écouter Zumba. Alors, ça veut
tu
dire
veux
quoi,
écouter
alors, Zumba, comme tu veux. Si on a le temps, on la garde pour la fin, alors.
Oui, je pense, on peut la garder pour la fin.
Ouais, mais... super. Bon. Et moi, j'avais posé une question tout à l'heure, mais c'est pendant que le CD passait. Je serais curieuse d'entendre ce que tu as fait avec ces textes de femmes du XIIIe siècle. Tu m'as dit que tu avais pu en faire une interprétation. Donc, tu les chantes a cappella. Tu as fait des enregistrements pour toi?
Oui, j'ai fait un enregistrement beaucoup moins professionnel que celui-ci, mais quand même bien. Voix et vielle, parce que la vielle est... instrument d'accompagnement bien de cette époque.
T'as trouvé un ou une violiste à Lyon?
Oui, une amie qui fait de la viole de gambe et elle fait aussi un peu de la vielle. Donc on a fait ça à deux et il y a un morceau où on a décidé de mettre de la percussion orientale, le daf, parce que ça apporte, c'est comme c'est comme un tambourin assez profond avec des graves, donc ça collait bien. Donc on a enregistré que 6 morceaux comme ça, vielle et voix, et un morceau avec la percu. Et le 7e morceau qui n'a pas de musique, on l'a fait en déclamation. Ça, je l'ai récité seulement. Parce que celui-là, il n'a pas de portée, donc il n'y avait pas de notation musicale là-dessus.
Du coup, on peut les écouter sur SoundCloud encore? Ils sont accessibles ou...
Oui, je les ai mis sur SoundCloud pour que les gens écoutent s'ils veulent. C'est ce résultat de recherche. Donc, il faut chercher dans mon SoundCloud personnel. Pas sur celui d'Aïn.
Donc, on peut taper Rebecca Roger?
Ouais, exactement.
Ok, ça marche. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez écouter des chants du XIIIe siècle sur des... partition texte très rare, finalement, il n'y a que celui-ci qu'on a retrouvé, et donc qui est dans un musée aux États-Unis maintenant.
À New York. Il est conservé dans la bibliothèque, la Morgan Library.
Et est-ce qu'il est visible, par exemple, sur ton site? Tu l'as scanné? Tu as pu le photographier?
Non, ça se trouve quand même sur Internet, la photo du manuscrit. Mm-hmm. Moi, je ne l'ai pas mise.
Il a un nom, on peut trouver facilement.
Oui, ça s'appelle Parchemin Vandel, et les chants s'appellent Cantigas de Amigo. De Martin Kodak.
Et Martin Kodak, c'est qui?
Le possible compositeur de ces monodies, mais on n'est pas sûr.
Et il était annoté quelque part?
Il y avait son nom dessus, mais on ne sait pas si c'était vraiment son nom.
Ou celui qui a transcrit? Peut-être celui qui a transcrit à l'époque, il y avait des... Comment on appelait ça? Ceux qui écrivaient...
Il y a son nom dessus, mais on est...
Oui, on n'en sait pas plus.
On n'en sait pas plus, non.
Rebecca retrouve sa voix. Ah, c'est pas les mêmes températures qu'aux îles Canaries.
C'est clair que non. Petit virus de fin d'année, début d'année.
Oui. Il faisait combien aux îles Canaries?
Ah non, 22 degrés, c'était tranquille. Oui.
C'est une sacrée transition, retour à Lyon.
Un peu dur.
Alors ce dernier morceau de l'album, je vous rappelle qu'on l'a découvert en avant-première, en entier, donc sur ces 6 titres. Zumba, Kwe, Zumba.
Zumba, Kasumba.
Zumba, Kwe, Zumba.
Si. Alors, ce morceau, il est très spécial. C'est celui qui est déjà en ligne parce que c'est le single du disque. Il est spécial pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que justement, c'est le morceau qu'on a enregistré à distance avec les deux amis Manuel Rangel, qui joue les maracas vénézuéliennes. Il l'a enregistré au Venezuela. Et Jorge Glem, qui est un grand quatriste et ami aussi, qui a enregistré depuis New York. Donc c'est le morceau qu'on a fait à distance. Et puis Zumba que Zumba, c'est un genre de joropo. C'est justement ce genre dont je parlais tout à l'heure, qui vient de la plaine. On retrouve aussi en Colombie, donc c'est un genre qui appartient aux deux pays. Et c'est une musique très rythmée, où on va retrouver justement cuatro, maracas et éventuellement la harpe, la basse. Mais là, on a fait avec la guitare qui remplace un peu la harpe. Le chant, c'est un chant, on le sent qu'il a une certaine force, parce que justement c'est une femme qui dit « moi j'ai envie de faire ce que je veux faire sans demander permission à personne ». Et c'est quelque chose qui est très important dans ce genre, puisqu'il s'agit d'un genre musical qui est surtout masculin. La femme qui chante ce type de musique a du mal à se retrouver, à avoir une place, à se revendiquer. Donc pour moi aussi, c'était un challenge de chanter ce morceau parce que c'est vraiment un genre quasiment masculin. Trouver une place là-dedans est difficile. Et surtout, avoir une femme qui écrit les paroles et qui revendique cette place dans la société.
Cuatro, c'est quoi ?
Cuatro, c'est un instrument vénézuélien. On retrouve aussi en Colombie, mais un peu moins, qui a 4 cordes. Et il est très rythmique. C'est fait vraiment pour la rythmique. Il y a même un petit bout de bois qui est fait, qui est collé à la caisse. Donc comme ça, on frappe sur ce bout de bois et ça fait ces à-coups de ta-ta-ta, très rythmique. Voilà, typique pour le joropo, pour ce genre de musique.
Alors, je vous rappelle que vous êtes en concert avec Aïn vendredi prochain, 11 janvier 2019. Je te remercie d'avoir bien voulu venir jusque dans les studios de Patchworld.
Merci à toi,
et
Delphine.
Et puis, à très vite pour les prochaines aventures, que ce soit Aïn ou Trobeiritz.
Oui, carrément. Trobeiritz.
Trobeiritz. Un jour, j'y arriverai.
On vous attend le 11.
Aïn avec Rebecca, notre invitée du jour, Rebecca Roger. Vous retrouvez toutes les infos Aïn Trobeiritz sur internet, site et Facebook. Et puis venez au Nidpool vendredi prochain. Et le lendemain ?
Le lendemain, bon, ça sera encore autre chose. C'est musique afro-colombienne à Hecho en México avec le groupe Pambélé. Je serai là en tant qu'invitée.
Donc dans un lieu qui s'appelle ?
Hecho en México, c'est dans la petite rue des Feuillants, dans le premier arrondissement, pas loin de la place du Griffon. May blow
and the sun may shine. Et puis le site du dessinateur, parce que là franchement je vais aller voir Flores
Solano sur Instagram ou Facebook.
Puis avec Trobeiritz, tu seras agendaire en février.
Oui, le 23 janvier. Le 23 janvier à Gendarme pour un petit programme de trip-hop baroque.
Du trip-hop baroque, alors ça a le mérite d'être original avec Fred au théorbe alors.
Tout à fait, théorbe et guitare baroque. For travels, you
came to the right place. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore une excellente année à tous, prenez soin de vous, bonne année 2019 et profitez bien de cette année que je vous souhaite heureuse et pleine de réussite. À très vite.
You're always welcome.
Merci Rebecca. Pas ventre affamé, n'a point
d'oreille.
Jeito bom de gingar de samba. Você
samba sambo, fez a turma toda gostar do seu jeito bom de gingar de samba. Din, 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 faz o tamborim só com digudim. O meu violão faz tindom, batendo igual o meu coração, tindondom. Din, 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 faz o tamborim só com digudim. O meu violão faz tindom, batendo igual o meu coração, tindondom.
I got it.